Bonjour à tous. Il y a quelque chose qui a commencé ici, qui ne va pas s'arrêter. Ce matin, en quittant la maison, plus je m'approchais d'ici, plus il pleuvait, ça c'est une première chose, mais plus une joie bizarre remplissait mon cœur. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer là-bas à Warem, là, ou plutôt, qu'est-ce qui est déjà en train de se passer à Warem? Il y a quelque chose qui s'est passé ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est un début de réveil, hein, ça. On est déjà vu assez pour savoir que ça, c'est un début de réveil. Et comme tous les débuts de réveil, il y a toujours beaucoup d'entre nous qui sommes là comme des vaches qui regardent passer le train. Parce qu'on n'est pas dedans et on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. On dit, qu'est-ce qu'ils ont, ces petits jeunes et ces moins jeunes, à être tout excités comme ça. Moi, je sens rien. Je ne sais pas si tu es là ce matin et te dire, moi, je sens rien. Moi, je ne vois pas de quoi elle parle, la Louana qui s'excite là, à dire que Dieu est là. Moi, je ne vois rien. C'est parce qu'on a besoin de recevoir. On a besoin que Dieu communique quelque chose dans nos vies. Et généralement, hein, ça se passe comme ça. Ceux qui ont reçu prient pour ceux qui n'ont pas reçu jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Et ça explose. Ce qui se passe ici, dans votre communauté, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu se passer dans une petite église où il n'y avait qu'une personne qui avait été touchée par le Saint-Esprit, une seule. Et elle disait, Dieu est là! Et tout le monde la regardait avec des yeux comme des soucoupes. Et il disait, j'ai envie d'arrêter de prêcher, j'ai envie de prier pour vous. Et tout le monde le regardait. Et puis il a dit, allez, venez, on va prier pour vous. Et il commence à prier pour les uns et pour les autres, et tout le monde était presque indifférent. Et ils se disent, moi je ne vois pas de quoi on parle. Et le deuxième jour, il continue à faire la même chose. Et il prêche courtement, il continue de prier pour les gens. Il dit, je suis en feu, j'ai besoin de prier pour vous, je dois vous communiquer quelque chose de la part du Saint-Esprit. Et le deuxième jour, il y en a quelques-uns qui commencent à l'attraper. Et puis, ça commence à faire un effet exponentiel. Et l'Église, elle est visitée par le Saint-Esprit d'un réveil qui ne s'est pas arrêté pendant 10 ans. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui reçoive du ciel. Et alors quelque chose de puissant peut se passer. Eh bien, c'est descendu et c'est descendu sur plus d'un. C'est descendu sur plusieurs. Vous vous souvenez, on parlait il y a quelques années que Dieu allait faire quelque chose dans cette église à travers les jeunes. Eh bien, ça a commencé. C'est là, n'attendez plus. N'attendez plus quelque chose qui va venir dans le futur. Ne méprisez pas les petits commencements. Attisez les flammes de ce que vous avez reçu jusqu'à ce que ça remplisse tout le pays. Parce que si je pouvais le sentir depuis Charleroi, c'est que ça rayonne déjà pas mal. Hein. Maintenant, on va viser Mons, Anvers. Parce que, en tout cas, il y a déjà une portée impressionnante. Hein. Vous vous souvenez quand Jésus il est sorti de la barque et qu'il est arrivé dans le territoire des Gadaréniens, à quelques peut-être kilomètres de là ou centaines de mètres, il y avait un possédé dans les tombeaux qui a senti la présence de Jésus et qui est venu en courant. Parce que quand Dieu habite quelque part ou dans des personnes, il y a une zone d'influence spirituelle qui rayonne de ces personnes sur une large, large distance. Eh bien, ce matin, Warem, elle rayonne sur la moitié de la Belgique, au moins. Et si vous ne vous rendez pas compte, restez là, continuez, recevez. Recevez la prière, venez une fois, venez deux fois, venez 50 fois, ce n'est pas important, jusqu'à ce que vous attrapiez le feu qui est là. Et ceux qui l'ont reçu, ils ne vont pas arrêter de l'éventer, je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'attiser les flammes jusqu'à ce que ça devienne très contagieux. J'ai rencontré un homme de Dieu, quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il n'avait pas le temps de prier pour les gens. Il suffisait qu'il les regarde et les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils s'effondraient en pleurant. Et alors il faisait attention à qui il regardait. Et pendant une saison comme ça, pendant plusieurs mois, il était tellement rempli du Saint-Esprit que quand il regardait quelqu'un, waouh, il était rempli de l'Esprit de Dieu, il s'effondrait, il se repentait, il pleurait, il recevait le parler en langue de la totale, quoi, en quelques instants. C'est presque comme s'il y avait des rayons laser dans ses yeux. Et cet homme, il a continué, il est dans un grand ministère en francophonie maintenant. Hein, mais Dieu, il peut faire des choses extraordinaires que vous n'avez jamais vues. Ayez une grande attente. Mais méfiez-vous du diable qui est terrible pour éteindre les choses que Dieu commence. Quand il voit quelque chose que Dieu fait, il vient jeter un seau d'eau sur le feu. Et il aime détruire les choses dans leur petit début. Parce que c'est plus facile de tuer un poussin que de tuer un coq. Et le diable, il aime venir éteindre. Alors méfiez-vous, alors que le Seigneur est en train de commencer quelque chose maintenant, le réveil est en marche dans cette église. Vous l'avez attendu, il est arrivé, il est né pour la Pâque. Mais l'ennemi rôde autour et il se demande comment est-ce qu'il va faire pour endiguer, pour arrêter, pour éteindre, pour étouffer. S'il vous plaît, ne participez pas à l'œuvre de Satan qui va contribuer à essayer d'attaquer ce que Dieu est en train de faire. Et je vous le dis directement, de la part du Seigneur, il va y avoir de l'hostilité de la part de l'ennemi parce qu'il n'aime pas ce qui est en train de se passer ici. Il n'aime pas ce petit commencement. Et il veut l'éteindre parce qu'il voit très bien où ça va mener. Ça va mener à ce que ce bâtiment soit trop petit pour accueillir cette église, parce que le Seigneur va vraiment provoquer une grande, grande moisson d'âmes. Vous allez voir, dans le temps qui est là, à cause de la présence du Saint-Esprit, il va y avoir beaucoup de délivrances. Beaucoup de démons vont être chassés. Parce que ce n'est pas nous qui chassons les démons, c'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Il les expulse des vies. Et il y en a plusieurs ici, vous avez vécu pendant longtemps avec des puissances des ténèbres qui vous asservissent. Dieu va vous libérer surnaturellement dans cette saison par le doigt du Saint-Esprit. Il va y avoir des malades qui vont guérir, il va y avoir des conversions spectaculaires. Dieu va faire des grandes choses dans ce temps dans lequel vous êtes. Et vous me regardez comme des vaches qui regardent passer le train. Non, non, j'ai vu ça dans plein d'endroits. Et j'en ai vu assez pour le reconnaître quand ça commence. C'est en train de commencer. Il y a quelque chose de formidable qui va se passer ici. C'est le bon endroit. Hein, c'est bien d'être là. Il y en a peut-être qui se sont dit « Ah, moi, je m'en vais de Warem, ça ne va jamais fonctionner. » Ils sont partis. Eh bien, ils auraient dû attendre un petit peu plus longtemps. Ah oui, parce que c'est en train de commencer. Et alors ils vont revenir faire semblant de rien. Ça, c'est toujours bien dans le monde chrétien. Note que moi-même, j'ai fait ça aussi. Hein. J'ai quitté l'église à 15 ans parce que c'était trop ennuyant. Mais à 19 ans, c'était devenu tellement chaud que j'ai fait semblant de rien, je suis revenu. Et j'ai fait comme si j'avais toujours été là. Dieu, il est bon. Hein. Dieu est un Dieu qui nous réhabilite. J'avais vécu 3 ans dans le péché, loin de Dieu, à désobéir autant que je le pouvais pour essayer de le fâcher contre moi. Il m'a ramené à lui. Et il m'a réintégré en un jour comme si j'étais jamais parti. Dieu est un Dieu de restauration, un Dieu de miséricorde. Il nous donne toujours des secondes chances. Et il nous réhabilite et il nous remet à notre place. C'est formidable, on a un bon Dieu. On a un bon Dieu et on a un méchant diable. L'Écriture, elle dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je dois vous dire les deux choses. Je dois vous dire que Dieu est tellement bon, mais je dois vous dire aussi qu'il y a un lion rugissant qui tourne. Et il cherche comment foutre la pagaille, comment abîmer l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'Écriture, elle dit qu'on doit veiller sur notre cœur, plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et quand on a été touché par le Saint-Esprit et que le feu du réveil brûle en nous, à combien plus forte raison faut-il alors veiller sur notre cœur? Parce que figurez-vous que c'est dans votre cœur que le réveil risque de s'éteindre. Si vous laissez l'ennemi entrer, attaquer, jeter un seau d'eau sur le feu, votre cœur pourrait s'éteindre et pourrait perdre ce que vous avez reçu. C'est dans ce proverbe 4 qu'on va lire ce matin, dans le livre des Proverbes au chapitre 4, on va lire les versets 18 à 27. Proverbe 4, les versets 18 à 27. Alléluia. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça, c'est ce qui va vous arriver, les amis. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Au milieu de ce texte, on connaît ce verset, hein, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Mais il est entouré de choses merveilleuses, de conseils sur comment on fait pour garder notre cœur. Alors avant tout, je vais quand même dire quelque chose que j'ai peut-être déjà dit ici, peut-être plusieurs connaissent, mais c'est important de le signaler parce que sinon vous n'allez rien comprendre à ce texte. En français, le cœur, c'est le siège des sentiments. Hein, quand on dit « mon cœur », ça veut dire « je t'aime hein ». Mais dans la Bible, le cœur n'est pas le siège des sentiments. Parce que dans la Bible, ils ont pris l'ascenseur et ils sont descendus d'un étage. Dans la Bible, on pense dans son cœur et on ressent dans son ventre. Les entrailles sont le siège des sentiments dans la Bible. D'ailleurs, le mot miséricorde en hébreu, rachamim, ça veut dire entrailles. Miséricorde, c'est entrailles. Les sentiments sont dans le ventre. Et en réalité, si vous regardez bien, souvent on ressent les sentiments dans le ventre. Hein. Vous avez remarqué ? Moi, quand j'ai peur, j'ai mal au ventre. Hein. Et quand j'ai le trac et tout ça, je le ressens dans le ventre. Hein. Et j'ai jamais vécu ça, mais les dames, elles disent souvent, quand elles sont amoureuses, j'ai des papillons dans le ventre. Je ne sais pas comment ça se passe, ça. Moi, les seuls papillons que j'ai dans le ventre, c'est quand j'ai attrapé la gastro-entérite. Mais dans la Bible, les sentiments sont dans le ventre, mais les pensées spirituelles sont dans le cœur. Parce que figurez-vous qu'à l'époque biblique, on n'avait pas encore compris qu'on réfléchit avec son cerveau, en fait. On se demandait quelle était cette masse bizarre qui est dans la tête, dont on ne sait pas à quoi elle sert. Mais nous, on pense dans nos têtes et on ressent dans notre cœur. Dans la Bible, on pense dans son cœur, on ressent dans le ventre. C'est l'anthropologie biblique, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand la Bible, elle te dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », elle est en train de te dire « veille sur tes pensées, fais attention à quoi tu penses ». Parce que ce sont de tes pensées, c'est de ton activité mentale, de ton fort intérieur, que va jaillir toutes les sources de ta vie. L'Écriture, elle dit, tel un homme est dans son cœur, dans ses pensées plutôt, tel il est réellement. Tel un homme est dans ses pensées, tel il est réellement. Si tu penses que tu es nul, tu vas être nul. Si tu penses que tu es un raté, tu vas vivre une vie de raté. Avez-vous remarqué que les personnes qui se pensent rejetées sont toujours rejetées ? Parce que la manière dont on pense détermine notre réalité. Et c'est pour ça que la Bible, elle nous encourage à recevoir un renouvellement de notre intelligence et de penser comme Dieu. On a besoin d'accepter que Dieu chamboule un peu notre manière de penser pour qu'on arrive à penser comme lui, à nous voir comme lui et puis à agir comme lui. Tout ça, c'est une question d'identité. Qui es-tu ? Sais-tu qui tu es ? Te rends-tu compte que tu es un enfant de Dieu, que tu es fils, que tu es fille de Dieu, que tu as été adopté, pardonné, libéré en Jésus-Christ, lavé par son sang, et que le diable, il est sous tes pieds. C'est pour ça que l'Écriture, elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le diable vise tes pensées. Il cherche à influencer ton activité mentale pour te détourner de Dieu et détruire ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Le verbe « garder » ici, « garde tes pensées », c'est le verbe qu'on utilise pour garder les moutons, en hébreu. C'est veiller sur ses pensées comme un berger veille sur ses brebis. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de regarder s'il n'y en a pas une qui s'égare. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mes pensées s'égarent souvent. Hein. Des fois, je suis en train de chanter et puis mes pensées, elles sont à 100 km. Il y a au moins quelqu'un qui est comme moi ici, j'ai entendu une dame. Nos pensées ont une capacité à se disperser. Maintenant, se disperser, ce n'est pas un péché. Hein. Mais parfois, nos pensées, vous savez qu'elles se dispersent là où elles ne devraient pas aller. On pense à des choses qui ne sont pas bonnes, ni bonnes pour les autres, ni bonnes pour nous. On peut penser au mal, on peut penser du mal de soi aussi. On peut douter de Dieu. Tout ça, ça se passe dans les pensées. Et la pensée est très puissante, figurez-vous, parce que les pensées qui ne sont pas en accord avec Dieu ont le pouvoir d'arrêter la puissance de Dieu en action. Je vais vous le prouver. Vous vous souvenez quand Jésus est allé dans son village à Nazareth et qu'il a commencé à faire du ministère là au milieu d'eux, et il voulait guérir les malades, il voulait faire des miracles de la part de Dieu. Les villageois qui l'ont connu depuis son enfance, ils ont dit, hein, n'est-ce pas Jésus, le fils du charpentier? Et ses frères ne sont-ils pas tous parmi nous et ses sœurs aussi? D'où lui viennent cet enseignement et ces miracles? Et la Bible, elle dit, à cause de ça, Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit 2-3 malades. C'est déjà bien pour nous, mais pour Jésus, ce n'était pas beaucoup. Nous, on serait déjà contents qu'il y ait 2-3 malades guéris ce matin. Mais alors, les gens de Nazareth, ils n'étaient pas très méchants, vous savez, leur incrédulité n'était pas terrible. Hein. Elle consistait seulement à poser des questions toutes simples. Mais est-ce que ce n'est pas le charpentier, lui? Et puis, on le connaît, il a grandi parmi nous. On a vu son passé, on a vu quand il était adolescent. Bon, Jésus, il n'a pas été un sale adolescent, j'espère. Mais parfois, dans l'Église, vous savez, on se connaît tellement bien qu'on refuse de reconnaître ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un maintenant, parce qu'on a vu ce qu'il était dans la saison précédente de sa vie. Si tu juges un arbre pendant l'hiver, tu diras, il est bon à rien, il faut le couper. Attends le printemps. Attends le printemps. C'est ton printemps. J'ai oublié ton prénom. Oui. Toi, oui, oui. Oui, Cécile. C'est ton printemps. C'est ton printemps. Dieu est un Dieu de résurrection et un Dieu de puissance. Il fait des choses étonnantes. Il fait des choses grandes. Et même quand nous, on dit, il n'y a rien qui change, et bien Dieu fait des choses étonnantes. Il faut s'attendre à Dieu. Cécile, Dieu va, puisque j'y suis là, à parler, il va vraiment te confier sa parole. La prophétie va exploser et tu vas avoir vraiment la parole qui brûle en toi pour partager de plus en plus. Et évidemment, il y a des discussions peut-être à avoir avec le pasteur ou avec des choses comme ça, hein, je ne sais pas, hein, mais attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose de formidable dans ta vie. Ce matin, quand j'ai débarqué ici, je dis, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'avais pas encore entendu ton histoire, hein, je ne savais pas que tu avais reçu quelque chose. Je veux te dire, tu es magnifique. Dieu brille sur toi. Je ne t'ai pas vu comme ça depuis je ne sais pas combien de temps. Jamais. C'est vrai, jamais. Tu es magnifique. C'est vraiment, Dieu est en train de briller à travers toi, c'est formidable. L'ennemi, il aimerait bien mettre un gros seau d'eau là-dessus, on lui interdit dans le nom de Jésus. Parce que c'est ton printemps. Ça va bourgeonner, ça va fleurir, ça va produire. Je ne parle pas d'une poussée d'acné, hein. Mais je parle du fruit du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Vous voyez, Jésus, on le connaissait, on l'a vu grandir, c'était le fils du charpentier, et on le méprisait parce qu'on le connaissait tellement bien. Et il ne put là faire aucun miracle. Vous avez vu à cause de quoi? À cause des raisonnements humains des gens qui n'étaient pas particulièrement méchants, c'était juste un léger questionnement. Une légère remise en question, un léger doute. Et la Bible, elle utilise le mot incrédulité pour ça. À cause de leur incrédulité, Jésus ne put là faire aucun miracle. Est-ce que vous vous rendez compte que nos raisonnements ont un pouvoir pour empêcher même le Fils de Dieu d'accomplir des miracles? Moi, ça m'étonne toujours. Vous savez, Jésus ne s'est pas levé ce matin-là de mauvaise humeur, après avoir fait la guindaille le soir avant, avec quelques péchés à confesser, pas en forme, n'ayant pas reçu une parole de Dieu pour Nazareth. Non, comme toujours Jésus, avant le lever du soleil, il allait prier. Et comme toujours Jésus, il était en pleine forme parce que Jésus ne commettait aucun péché. Jésus était connecté à son Père. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et le Père a dit à Jésus, va à Nazareth, tu vas faire des miracles. Et quand Jésus a débarqué là-bas, il n'a pu rien faire à cause des raisonnements des hommes. Les raisonnements humains ont un pouvoir même d'arrêter le Fils de Dieu qui est en train de faire des choses formidables. Et c'est pour ça que la prédication, ça consiste à fracasser les raisonnements, les forteresses mentales qui s'élèvent dans les intelligences des hommes pour occulter, pour cacher la connaissance de Dieu, pour les empêcher d'être touchés. Et ce matin, je sens vraiment dans le ciel un marteau qui est en train de frapper les raisonnements ici. Frapper les raisonnements ici. Frapper des raisonnements que vous avez depuis toujours dans votre vie. Frapper des raisonnements que vous avez reçus dans des églises où vous étiez avant. Frapper des raisonnements que vous vous êtes conçus, créés dans votre tête. Et le Saint-Esprit est en train de frapper ces raisonnements-là. Et il est... Je vais casser cette chaise. Il est en train d'essayer de les fracasser parce qu'il veut que la rivière de son esprit coule au milieu de vous et que vous acceptiez d'être touché et d'entrer dans le fleuve de l'esprit. C'est pas grand chose qui vous empêche d'y rentrer, c'est ce qui se passe entre vos deux oreilles. Les pensées parasites qui vous font souffrir. Vous savez, quand quelqu'un a des pensées qui ne sont pas comme les pensées de Dieu, ça se voit tout de suite sur son visage. On devient triste, on devient sombre, les yeux sont chargés, on perd notre joie, on perd notre entrain. Mais quand on laisse tous ces raisonnements-là et on tourne notre visage vers le Seigneur, la Bible, elle dit, le visage devient rayonnant de joie. C'est étonnant hein, que les gens du monde veulent penser comme ils veulent penser et ils sont malheureux, alors qu'il suffirait de penser comme Dieu et on serait heureux. Un jour, j'étais en train de déposer ma toute dernière fille à... c'est pas que j'en ai 15, hein, j'en ai que 3, mais toute dernière, ça fait comme si j'en avais beaucoup. J'étais en train de la déposer à l'école maternelle, j'étais en train de siffler, je sais pas qu'est-ce que je chantais, et je chantais à voix basse et je sifflais. Et puis il y a une maman qui était avec moi, qui attendait qu'on ouvre les portes, elle a dit, mais c'est qui siffle, qui chante comme ça ici? Moi j'ai fait, oups, je l'ai dérangé peut-être. Et alors elle dit, c'est qui? Alors, j'avoue, c'est moi, je pensais qu'elle allait me disputer. Ah, que ça fait du bien enfin de voir quelqu'un heureux, qu'elle m'a dit. J'en ai marre de toutes ces salles. Bip. Ça fait tellement de bien de voir quelqu'un qui est heureux pour changer. Un chrétien, ça devrait être heureux. Ça devrait être la plus heureuse des personnes de la terre. Tu devrais avoir une joie débordante parce que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, de ton ventre, de ton cœur. La puissance de Dieu, elle habite en toi. Dieu veut que tu sois comme ça. Et alors, comment est-ce qu'on s'y prend en pratique? Je vais être très pratique ce matin pour garder son cœur. Parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué si je te dis « garde ton cœur ». Comment est-ce qu'on garde son cœur? Est-ce qu'il faut monter la garde en tournant comme une sentinelle? Comment est-ce qu'on garde son cœur? Ben, le texte ici nous le dit clairement. Si vous avez lu ce texte dans les versets 20 jusqu'à 26, on parle des oreilles, on parle des yeux, on parle de la bouche, on parle des pieds. Il a passé en revue toute l'anatomie là. Il dit « prête oreille à mes discours, n'éloigne pas tes yeux de mes discours, garde-les dans le fond de ton cœur, écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi, considère le chemin où tu passes, toutes tes voies, qu'elles soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » Il est en train de nous décrire les accès dont l'ennemi se sert pour atteindre ton cœur et éteindre ton feu. Qu'est-ce que tu fais avec tes yeux? Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce que tu fais avec tes oreilles? Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? C'est très important, parce que figurez-vous, je ne sais pas si je vous l'apprends, j'espère que non, l'ennemi ne sait pas ce que vous pensez. Le diable n'est pas omniscient, il ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. La seule chose qu'il est capable de voir, c'est l'effet que ça a sur vous par rapport à votre comportement ou vos paroles. Mais quand l'ennemi vous regarde, il regarde Jérémia, il se dit « mais qu'est-ce qui se passe en Jérémia maintenant ?» J'aimerais bien le perturber un petit peu. Et il ne sait pas. Et alors, il va te donner une mauvaise pensée, peut-être, Jérémia, mais il ne sait pas ce qu'elle produit en toi. Mais il va regarder et il va dire, ah non, celle-là, elle ne l'a pas prise parce que Jérémia n'a rien fait avec. Mais dès lors que Jérémia va commencer à agir de travers, le diable, il fait, ça y est, celle-là, elle a fonctionné. Je connais la stratégie pour l'avoir. Hein? Je t'utilise comme un exemple, mais ça n'a rien à voir avec toi, hein, je le dis tout de suite. Ce n'est pas prophétique, c'est juste pastoral. Le diable, il regarde l'extérieur et il voit notre comportement, il entend nos paroles, il voit les choses auxquelles on accorde du temps. Hein. Vous savez, les trois choses importantes que l'on a en quantité limitée, notre temps, notre argent, notre énergie, on n'en a pas beaucoup de ça. enfin, si vous en avez beaucoup, prêtez-moi un petit peu. Du temps, moi, j'ai pas assez de temps. D'argent, on n'a jamais assez d'argent pour l'œuvre de Dieu. D'énergie, oui, c'est difficile. Hein. Le diable, il regarde, à quoi est-ce que tu consacres ton temps, ton argent et ton énergie? Et il se dit, ah, voilà, là, je sais l'avoir, là, je sais l'influencer. Et mettre Dieu en premier, c'est le mettre en premier dans notre temps, le mettre en premier dans notre argent, le mettre en premier dans notre énergie. Seigneur, je ne veux pas te laisser le reste, je ne vais pas passer du temps avec toi en prière à 23h30 avant d'aller me coucher quand je somnole et que j'ai regardé 2 heures de télévision. Avant, non, Seigneur, je vais te donner le meilleur de mon temps. Je vais te donner les prémices de mon temps. Je vais te donner les prémices de mon argent. Je vais te donner les prémices de mon énergie. Je vais être en forme pour toi, même si je dois aller fatigué au travail. Mon patron râlera parce que je suis fatigué, mais moi, j'aurai été en forme pour Dieu. Je vais danser dans l'église jusqu'à user mes semelles, même si le reste de la semaine, je boite, je m'en fiche. Vous savez, il y a des fois, à l'église, on chante tellement que je n'ai plus de voix le restant de la semaine, et quand je suis en relation d'aide avec les gens qui sont dans mon bureau, je ne sais plus parler. J'ai une extinction de voix parce qu'on a tellement crié, on a tellement chanté. Je vais me dépenser pour mon Dieu, je vais lui donner le meilleur de ce que j'ai. Je ne vais pas user ma vie et puis venir dimanche matin lui donner les miettes qui restent. Les quelques centimes, ben j'en ai même pas, qu'il y a dans ma poche, dans l'offrande. J'ai perdu un bouton de ma chemise. Voilà, je vais le mettre dans l'offrande pour faire semblant. On a déjà ramassé ça, dans l'offrande. Quelqu'un a été dans le fond de sa poche, il a pris un vieux bouton. Il croyait que c'était une pièce. Merci beaucoup. En fait, si vous en avez un, je veux bien le recevoir, hein, parce que j'ai perdu un. Hein. Mais on va lui donner le restant de notre énergie. Oh, j'ai été tellement fatigué cette semaine, Seigneur, je te donne le reste. Et on va lui donner le restant de notre temps. Seigneur, j'ai plus de temps aujourd'hui, tu te rends compte, Seigneur, et je suis fatigué, alors je vais te donner 5 minutes. Et si on commençait par mettre Dieu en premier et lui donner les prémices, le meilleur. Et j'ai découvert quelque chose. Quand je mets Dieu en premier, dans mon temps, dans mon argent et dans mon énergie, j'ai assez de temps et d'argent et d'énergie pour faire tout le reste et plus encore. On pense que si on gaspille sur Dieu notre temps, notre argent et notre énergie, on n'aura plus assez pour le travail, la famille et tout le reste. Mais il y a un phénomène bizarre qui se passe quand on marche avec le Seigneur. Il y a une multiplication du temps, il y a une multiplication de l'énergie et il y a une multiplication de l'argent. Il y a des fois, je me demande avec toutes les factures comment je vais finir le mois et à la fin du mois, ça va. Il y a des choses mystérieuses qui se passent dans mon compte en banque parfois, vous savez. Il y a des fois, je n'ai pas envie de trop compter parce que je n'ai pas envie de casser le miracle. Il y a des fois, je dis, Seigneur, comment ça se fait? Ce mois-ci est encore plus dur que d'habitude et ça va encore mieux. Il y a des fois, je ne comprends pas, c'est mystérieux. Et pourtant, je suis quelqu'un qui calcule et qui compte. Hein. Il y a des fois où Dieu, il multiplie. N'avez-vous pas lu que la Bible, elle dit que les jeunes hommes se fatiguent, mais ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leur force. Ils s'envolent sur des ailes comme des aigles. Hein? Il y a quelque chose qui se passe quand on met Dieu en premier dans notre vie. On ne doit pas attendre qu'il nous reste un tout petit peu pour lui donner les miettes. Alors, cette vie surnaturelle qui est appelée à couler de ton cœur, puisqu'il est écrit « garde ton cœur plus que toute autre chose », car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie ne sont pas juste pour toi. Elles sont pour toi, mais elles sont aussi pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Un chrétien en bonne santé, il a tellement d'énergie de Dieu, de puissance de Dieu dans son cœur, que partout où il va, il a une bénédiction, il y a quelque chose qui se passe. Les gens sont touchés, ils sont encouragés. Ils vont te dire, tu n'es pas comme les autres. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais moi j'ai envie de me confier en toi. J'aime bien être avec toi. J'aime bien quand tu m'écoutes. Je me sens bien, je me sens soulagé quand je suis dans ta présence. Parce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein. Le sein, c'est le cœur, c'est l'intérieur, le fort interne. Le fort intérieur. Il y a la vie qui coule. On est censé être une source ambulante. Partout où on va, les eaux vives sont en train de couler. Vous allez vivre ça. Attendez-vous à voir des débordements de l'onction du Saint-Esprit dans la vie de tous les jours. Et qu'il y en ait qui viennent les dimanches et qui disent ce qui leur est arrivé en semaine, parce que le Saint-Esprit aura fait des grandes choses sans que vous ayez nécessairement cherché, juste parce que vous étiez au bon endroit, au bon moment, et que vous avez laissé le Seigneur toucher quelqu'un à travers votre vie. Oh, que c'est chouette, hein, ça. Patrick, tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche. mais ce n'est pas toi. Et ce n'est pas quelqu'un, c'est le Seigneur. Et on va te demander comment est-ce que tu as fait pour que ça marche. N'essaye pas de faire 7 points comment faire un réveil. N'essaye pas. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, chaque fois qu'il y a un réveil dans une église quelque part, tout le monde veut écrire un livre « Comment j'ai fait pour avoir un réveil ». Et ils ont tous des points différents et des principes. Et tout le monde l'applique partout dans le monde, mais ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas une méthode humaine, c'est la grâce de Dieu. C'est quand Dieu, il est dans le ciel et il va dans le lac de sa puissance, prendre avec une petite pipette une goutte de son onction et il dit « Où est-ce que je vais la mettre celle-là ? » ?»« Oh, regardez-moi ça ! À Warem, il y a les jeunes qui sont en train de prier. Regarde, ils ont faim et soif. » Regarde, ils attendent la venue du Saint-Esprit. Allez, poup ! Et la petite goutte de l'onction de Dieu qui tombe du ciel, elle devient une bombe atomique quand elle nous atteint, nous. Dieu ne se lasse pas de faire ça. Il parcourt toute la terre cherchant des personnes qui le cherchent et qui veulent le servir et qui lui appartiennent totalement. Il en a trouvé plusieurs dans cet endroit. Alors, pour éviter que l'adversaire puisse atteindre votre cœur, vous allez devoir faire attention aux portes qui mènent vers votre cœur. J'appelle ça la porte des yeux, la porte des oreilles, la porte de la bouche, la porte des mains, la porte des pieds, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes ? Ce que tu regardes, ce n'est pas passif. Regarder, c'est très actif. Regarder, c'est ouvrir un accès à notre cœur et laisser rentrer des choses. Il y a j'entends encore beaucoup parler de chrétiens qui regardent des films d'horreur et des choses impures à la télévision. En ce moment, le monde entier est en train de regarder Game of Thrones, la série la plus téléchargée et piratée dans l'histoire de l'humanité, qui est un ramassis d'impureté sexuelle et de magie noire, s'il vous plaît. Et les chrétiens regardent ça. Vous savez, ça affecte votre cœur. Quand elle est sortie, cette série, eh bien, je l'ai regardée comme tout le monde, j'ai regardé les premiers épisodes, et j'ai offensé le Saint-Esprit que j'ai dû couper ça, et je ne l'ai plus jamais regardé. Je ne sais pas supporter ce truc-là. C'est rempli de trucs dégueulasses. C'est rempli de magie. Mais les chrétiens regardent ça, mais ce n'est qu'une série, c'est rien du tout. Ça affecte ton âme, ça rentre en toi. Parce que regarder, ce n'est pas juste voir. Regarder, c'est émettre de l'attention, c'est émettre de l'admiration. Regardez, je vais vous donner la preuve que regarder, ce n'est pas juste passivement voir. N'avez-vous jamais ressenti que quelqu'un vous regarde ? Comment est-ce que vous savez que quelqu'un vous regarde ? Alors que vous n'avez aucune raison devant vous de penser qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Si tout le monde devait se retourner par là et que je commençais à regarder avec grande attention l'arrière de la tête de quelqu'un, il sentirait quelque chose, il va regarder, quelqu'un me regarde. On sent quand quelqu'un nous regarde. Pourquoi ? Parce que regarder, c'est émettre de l'attention. Et on sent l'attention de quelqu'un qui repose sur nous. Parce que nous ne sommes pas que des êtres de chair, nous sommes des êtres spirituels, nous avons un esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Et quand on dirige notre attention quelque part, notre regard va là et notre esprit se dirige là et nous recevons quelque chose de ce que nous regardons. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Maintenant, j'ai gâché ce dimanche matin pour plusieurs parce qu'ils vont se dire « Oh, je ne verrai pas la fin de Game of Thrones. » Ah là là, ce n'est pas du légalisme, hein. Mais faites attention à ce que vous regardez, ne polluez pas votre cœur. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez. Est-ce que quand quelqu'un dit du mal de quelqu'un d'autre, tu prêtes l'oreille ? Hein ? La Bible, elle dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises qui descendent jusque dans le fond de l'être. Dis-moi encore, tu peux me répéter ce que tu as dit sur la sœur Intel ? Parce que franchement, ça me fait du bien, j'aime bien savoir qu'il y en a des autres qui ont des problèmes. Ils vont divorcer ? Non, oh là 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 là, que c'est grave. Et alors, on fait semblant d'avoir de la compassion. Hein. On va prier pour elle. Hein. Mais avant ça, on aura cassé du sucre sur son dos pendant des heures. Et on l'aura dit aux autres. Oh purée, dans les églises, c'est grave. Hein. Quelqu'un me dit, je te confie un secret, mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Et puis dans la semaine, il y en a 3-4 autres qui me confient le même secret parce que la sœur qui m'a dit que c'était un secret, elle a dit ça à tout le monde. Je te confie un secret, mais ne le dis à personne. Je dis la sœur, mais c'est des frères aussi. Des fois, de temps en temps. Rarement, mais ça arrive. Aïe, 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 j'ai perdu la moitié de mon auditoire. Qu'est-ce qu'on écoute? Vous savez que la personne que vous allez le plus entendre parler dans votre vie, c'est vous-même. Qu'est-ce que vos oreilles entendent de ce que votre bouche dit? Qu'est-ce que vous dites de vous? Parce que ce que vous dites influence ce que vous pensez de vous-même. Et quand on dit toutes sortes de mauvaises choses de nous, de soi, eh bien on s'influence et on devient de plus en plus déprimé. Il y a des fois, je me souviens quand j'étais adolescent, je me disais dans le miroir, mais que t'es moche, t'es nul, tu ne pourras jamais plaire à personne. Et même parfois je ne le disais pas, mais je le pensais. Je me méprisais. Et puis je disais toujours des trucs comme, mais que je suis con, mais que je suis con, mais que je suis con. Je disais toujours ça. Et à la fin, je finissais par le croire. Et à la fin, vous savez quoi? Les gens commençaient à me le dire. Parce que ce que tu penses de toi, les gens vont le penser aussi. Parce que ton opinion de toi-même va influencer l'opinion des autres à ton sujet. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Hein? L'apôtre Paul, il dit que nous ne pouvons pas dire, nous les chrétiens, des choses indécentes. Il dit que l'immoralité et toute débauche ne soient même jamais nommées parmi vous. Au contraire, hein, qu'il y ait des actions de grâce dans votre bouche. Maintenant, ne devenez pas des chrétiens religieux, gnangnan, qui ont un verset biblique à toute, pour mettre dans tous les trous. Hein. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein, ce n'est pas d'avoir des bondieuseries à dire à tout bout de champ, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, et Alléluia, Maranatha. Et... Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que mes paroles soient assaisonnées de sel, qu'il y ait de la bonté dedans, qu'il y ait la paix de Dieu dedans, qu'il y ait le Saint-Esprit dedans. Et quand je parle, que ce soit sur base des Écritures, sur base de la vérité du Saint-Esprit, que je ne parle pas pour démolir, mais que je parle pour construire, que je ne parle pas pour critiquer, mais pour ramener près de Dieu. Toutes ces choses-là, tous ces accès sont des portes ouvertes vers ton cœur. Il parle aussi de tes pieds. Les pieds, c'est le symbole de tes voies, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais de ta vie. Donc, ce que tu regardes, ce que tu entends, plutôt ce que tu écoutes, ce que tu dis, ce que tu fais, va déterminer ce que tu penses. Parce que dans ce texte, on le voit, vous le relirez à la maison si vous le voulez, mais il nous dit de garder notre cœur et autour de ça, il nous explique comment on fait pour garder son cœur. On fait attention à ce qu'on regarde, on fait attention à ce qu'on écoute, on fait attention à ce qu'on dit et on fait attention à ce qu'on fait. Parce que ces choses vont immanquablement déterminer ce que je pense. Et si ça atteint mon cœur, ça coupe la source d'eau vive qui coule en moi. Il y a des fois, tous les pasteurs reconnaîtront ça. J'arrive à l'église, il est 9h30, notre culte est à 10h au matin, et il y a quelqu'un qui vient près de moi, est-ce que tu as 5 minutes pour me parler? J'ai appris à dire aux gens, prenons un rendez-vous plus tard. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui viennent vers moi avant le culte, à 9h55, juste avant que je commence, et qui viennent me dire des choses qui salissent mon cœur et qui abîment la présence de Dieu en moi. Et ils vont, par exemple, ils vont commencer à dire des choses méchantes sur quelqu'un et ils vont commencer à me décourager parce que c'est décourageant quand on est pasteur d'entendre toutes sortes de problèmes tout le temps. Ça, à la fin, ça nous use. Et une fois, il y avait une dame de notre église qui a attendu qu'il soit 9h55 pour me parler avec méchanceté, vraiment m'agresser. Que j'ai dû lui dire, écoute, stop, assieds-toi, on en reparlera plus tard. Parce que mon cœur était affecté par ce qui était en train de se passer, ce qu'elle était en train de me dire. Et moi, j'étais là, j'avais prié, j'étais en feu pour le Seigneur. Mais les pensées de cette dame étaient tellement mauvaises et tellement sombres qu'elles commençaient à polluer mon cœur. Et quand je me suis tenu devant l'église, j'avais une tache là. Elle m'avait sali avec sa langue. Il y avait quelque chose de pas propre qui était dans mon cœur. Et pendant la louange, j'étais en train d'essayer de me débarrasser de cette mauvaise émotion, de cette mauvaise sensation, de ces pensées qui avaient pénétré. Qu'est-ce que j'avais fait? Quelle était l'erreur que j'avais faite? J'avais prêté l'oreille à quelqu'un qui parlait mal et j'avais laissé la pensée du diable venir s'instiller dans mon cœur. Eh bien, je peux vous dire, cette réunion-là, elle était presque totalement gâchée pour moi parce que je n'ai pas réussi à retirer cette drôle de... N'avez-vous jamais remarqué, mesdames et messieurs, les couples mariés, qu'on a tendance à se disputer le dimanche matin avant le culte ou dans la voiture? Ça arrive, hein, ça? Vous savez, mon épouse et moi, il y en a un qui lève sa main, c'est le seul qui ose le dire. Mon épouse et moi, on a appris à ne plus parler avant d'aller à une réunion. Parce qu'on a découvert que l'ennemi, il se faufile dans nos discussions avant d'aller à la réunion pour gâcher son cœur et gâcher le mien. Et puis après, on est à la réunion et on va faire les hypocrites alors. Alléluia, Dieu est bon. Et tu viens te disputer pendant 30 minutes avec ta femme dans la voiture. Ce n'est pas qu'il ne faut jamais se disputer, hein, pourvu qu'on se réconcilie et qu'on se comprenne. Hein. Un bon couple, un vrai couple, a des disputes. Un vrai couple se dispute parce que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Maintenant, on ne s'insulte pas, hein, on ne se rejette pas, mais c'est normal d'avoir des discussions animées. C'est normal, ça, dans un couple. Mais l'ennemi, il aime bien s'en servir. Il y a des fois, quand je vais prêcher quelque part, tous les chauffards de la ville s'en prennent à moi. Comme des mouches qui vont vers un excrément, et tous les chauffards de la ville, tous les fous de Warem me coupent la route. Ce matin, heureusement, Dieu les a écartés de mon chemin, j'ai même pas eu un feu rouge, tout droit. Mais il y a des fois comme ça, je sais ce qui est en train de se passer. Moi, je suis plein d'onction, moi, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je vais apporter une parole de Dieu dans cet endroit-là. Et puis, il y a des choses qui viennent m'énerver. Et puis, je commence à m'énerver. Et puis, la louange à la radio, elle commence à m'énerver aussi. Alors, je coupe la louange parce que mon cœur est en train d'être atteint. Vous vous rendez compte? Vous avez déjà remarqué que le diable, il fait ça dans nos vies. S'il arrive à atteindre ton cœur, il arrive à éteindre le feu. S'il arrive à perturber ton équilibre mental, il arrive à faire beaucoup de mal. La majorité des problèmes de la vie chrétienne se passent entre nos deux oreilles. C'est ce qui se passe là-dedans. Et Dieu, il veut délivrer les chrétiens de cette attaque de l'adversaire pour que nous puissions avoir un cœur qui brûle tout le temps. Et donc, on doit être comme un berger. Chacun de vous, vous êtes un berger de votre âme. Vous devez veiller sur vos pensées et vos sentiments intérieurs. Vous devez veiller sur votre état intérieur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans la présence de Dieu ? Et vous vous sentez comme oh, en paix, au large, il n'y a rien qui m'embête, je nage dans le bonheur, je suis dans la présence du Seigneur. Et puis sans crier gare, tout à coup de nulle part, une drôle de pensée survient, une drôle d'émotion survient. Quelque chose de négatif, quelque chose qui vous atteint, quelque chose qui pénètre dans votre bulle de bonheur avec le Seigneur et qui vous perturbe. Apprenez à reconnaître l'œuvre de Satan. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce que je viens tellement souvent ici que je risque bien sûr de me répéter. Je le saurai que je me répète de trop quand vous ne m'inviterez plus. Un jour, ça faisait 15 jours, c'était il y a une bonne douzaine d'années, ça faisait 15 jours que j'étais super déprimé et que je broyais du noir et que je pleurais devant Dieu tous les jours. J'allais vraiment mal. Je pensais que j'étais déprimé. Pas au point de dire que j'avais une dépression, mais j'étais vraiment déprimé. Et tous les jours, j'allais dans la présence de Dieu et je me plaignais à Dieu, je suppliais Dieu, viens m'aider, Seigneur, je ne suis pas bien, ranime la flamme qui brûle en moi, je suis triste, je n'ai plus envie de rien, tout m'énerve. Et Dieu ne me répondait pas, ça durait depuis 15 jours. Au bout de 15 jours, Dieu m'a dit une phrase qui a changé ma vie pour toujours. Il m'a dit, ce n'est pas toi. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et quand il m'a dit « ce n'est pas toi », je me suis dit « quoi qui n'est pas moi ?» quoi, tout cet état-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui suis triste, ce n'est pas moi qui suis découragé, ce n'est pas moi qui suis frustré et en colère. Ce n'est pas moi ça. Alors c'est qui ? Eh bien, j'ai compris tout de suite qui c'était, il n'a pas eu besoin de me le dire. J'ai fait ceci. Écoute-moi bien Satan, esprit de découragement, tu dégages de ma vie maintenant, je te l'ordonne dans le nom de Jésus. J'ai senti quelque chose fourmiller sur moi et partir par ma tête. Et le découragement a disparu en une seconde, alors que ça faisait 15 jours que ça durait, que ça ne partait pas. Ce n'était pas moi. Non, je ne dis pas que ça ne peut pas être vous parfois. Hein. Mais il y a des fois où c'est l'adversaire. Je vais vous donner la ruse principale de l'ennemi. Comment est-ce qu'il fait ? Oui, pour expliquer ça, je vais remonter un peu plus en arrière dans le temps. Les anges ont reçu depuis toute éternité, depuis avant la fondation du monde, un ministère envers la création.
C'est un ministère d'influence. Avez-vous déjà vu dans la Bible qu'il est écrit que parfois un ange y vient et il touche quelqu'un pour l'encourager? Lisez dans le livre de Daniel ou dans les, par exemple dans les autres prophètes. Dieu dépêche un ange qui vient et qui t'encourage. Il y a un texte où Daniel est tout découragé, il ne sait pas se relever, et l'ange vient et dit « Homme de Dieu, fortifie-toi » et il le touche. Et Daniel il dit « Ah, ça y est, merci Seigneur, je suis tout ragaillardi. » Les anges, ils ont de la part de Dieu un pouvoir d'influence. Ils le font très discrètement, et donc quand tu es découragé, Jérémia, Dieu envoie un ange, et l'ange ne dit pas « Jérémia, je suis un ange de Dieu, je suis venu pour t'encourager. » Il vient, il fait « Tic !» et Jérémia dit « Oh, ça va bien, en fin de compte, ça va pas si mal. » Ils sont des messagers qui apportent du ciel vers nous, des cadeaux du Seigneur. Quand Dieu veut faire quelque chose dans le monde spirituel, il envoie des anges. Quand Dieu veut faire des choses sur la terre, il envoie des hommes. Il ne le fera pas sans vous et il ne le fera pas sans eux. Mais les anges, ils ont un pouvoir d'influence. Mais certains anges qui se sont révoltés contre Dieu, ils ont bien sûr gardé leur pouvoir d'influence, mais au lieu d'utiliser pour le bien, ils l'utilisent pour le mal. Alors ils viennent et ils se disent « Oh Brigitte, elle va bien ». Et Brigitte, elle fait « Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire ? Il m'énerve, mon mari. Oh, il m'énerve celle-là. Tout m'énerve aujourd'hui, j'en ai marre. » Et elle ne se rend pas compte qu'il n'y a peut-être aucune raison humaine autour d'elle qui provoque cette drôle d'état, mais qu'elle est en train d'être parasitée par une influence maléfique. L'ennemi vise ton cœur parce qu'il se dit « J'ai pas envie de la laisser encore s'exciter sur l'estrade et mettre le feu dans l'église. » Alors je vais perturber son âme et je vais la décourager. C'est ça qui fait l'ennemi. Il cherche à passer par la porte de tes yeux, par la porte de tes oreilles. Il essaye d'influencer ce que tu dis, il essaye d'influencer ce que tu fais, de façon à se faufiler vers ton cœur et polluer ton cœur. Et s'il arrive à polluer ton cœur, il coupe les sources d'eau vive qui jaillissent de ton sein. Il va mettre une pierre, il va mettre quelque chose là. Et chacun ici, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il y a une pierre de Satan qui est dans votre cœur maintenant et qui vous empêche de vivre la plénitude de l'Esprit de Dieu. Si cette pierre n'était pas là, mes amis, vous seriez extatique, vous seriez enthousiaste, vous seriez en train de bondir de joie dans la présence de Dieu. Si tu trouves un chrétien qui est triste et découragé, ça ne veut pas dire que tout va bien dans sa vie, hein, et on peut avoir de grands problèmes dans la vie en étant plein de courage et plein de force, vous savez. Ce n'est pas les problèmes de la vie qui doivent ternir notre joie. Mais si vous voyez un chrétien découragé, un chrétien qui n'a plus d'espérance, un chrétien qui baisse les bras, forcément, 100% du temps, il y a un mensonge diabolique qui le tient. Toujours. Parce que la vérité te libère, mais le mensonge t'a servi. Quand tu rencontres un chrétien qui n'est pas plein de bonheur, plein de joie, plein de puissance, tu peux être sûr à 100% qu'il y a quelque part dans sa mentalité un mensonge de l'ennemi qui l'a bloqué. Et on doit apprendre à discerner ces choses-là. On doit l'apprendre. Et je vous donne cette stratégie aujourd'hui parce que l'ennemi, il vise votre feu, il veut l'éteindre. Et le feu, il est dans le cœur. Alors il faut que vous appreniez à repérer les ruses de Satan. L'apôtre Paul, il écrit « Nous n'ignorons pas les ruses de Satan ». Ça signifie qu'un chrétien est censé ne pas ignorer les méthodes d'action du diable. Le diable, il agit, et vous savez, il n'a pas 50 millions d'actions différentes. Hein. Il agit dans un petit éventail d'actions qui sont toujours les mêmes. Quand tu as fait 10 ans de pastorat, tu as déjà tout vu, et tu ne fais que pendant les 30 prochaines années voir des cadres de figures les mêmes que celles que tu as déjà faites. C'est incroyable. Hein. En 3 ans de pastorat, ben, j'ai déjà tout vu. Et puis tout ce qui se passe maintenant, je revois les gens qui « Ah ben oui, il me fait penser à celui-là parce que c'est le même problème. Ah oui, c'est le même que celui-là. Ah oui, c'est le même que celui-là. » Parce que l'adversaire, il a un petit éventail de possibilités pour attaquer les hommes. C'est pour ça qu'on a besoin de démasquer ces choses. Et ce matin, je suis en train de dénoncer les ruses du diable dans la vie de plusieurs ici. Il y en a ici qui croient qu'ils ont un gros problème, alors que c'est le diable qui se tient près de toi qui a un gros problème, mais il est en train de vomir sur toi son problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout qui est comme ça. Je ne suis pas en train de dire que toutes les dépressions nerveuses sont du démon, mais il y en a beaucoup. Combien de fois j'ai vu des personnes que quand on prie pour elles, pour casser l'esprit de dépression qui est sur elles, elles sont libérées de la dépression du jour au lendemain, comme ça. J'ai vu des cas comme ça. Parce qu'il y a des puissances des ténèbres qui viennent et qui essayent de se faufiler par ton regard, par ce que tu écoutes, par toutes les possibilités pour atteindre et ton cœur et l'éteindre et empêcher les sources d'eau vive. Si il se dit que si il ne peut pas vous empêcher d'aller au ciel, il va vous empêcher d'amener le ciel sur la terre. Un chrétien est appelé à amener le ciel sur la terre parce qu'il est écrit « Priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Un chrétien, il a été placé sur terre avec le ciel dans son cœur pour libérer à travers sa vie le ciel, pour que le royaume de Dieu se manifeste partout où il passe. Jésus, il a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. » Dites-leur la bonne nouvelle. On est censé avoir le même ministère que Jésus. Mais on dit, moi je n'y arriverai pas, moi je ne suis pas capable. Vous voyez où il a réussi le diable ? Il a réussi. Il a réussi. Pendant des années, je suis marié depuis 2001. Je vous donnais un petit témoignage de mon épouse qui fait le culte des enfants ce matin et qui veut bien que je le dise, donc ce n'est pas un souci. Je suis marié depuis 2001 avec Sandra. Depuis 2001, je lui dis des choses où Dieu veut l'utiliser. Et comme un refrain, comme un disque rayé, elle me disait toujours, je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais si, non, je ne suis pas capable de faire ça. Non, je ne le sens pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et souvent, elle se cachait. Et puis, quand elle se forçait, elle essayait d'y aller, et puis elle se sentait tellement timide qu'elle avait peur, elle avait peur, elle avait peur. Et alors, je dis, non, moi je crois en toi, moi je sais ce que Dieu a mis en toi, écoute-moi, non, si c'était de Dieu, je le sentirais, je le sens pas, c'est que c'est pas de Dieu, qu'elle me disait. Si c'est de Dieu, ça devrait être facile, Jésus il a dit que son joug est léger, etc. Donc ce que tu me dis ne peut pas être de Dieu, parce que j'ai l'impression que je dois me forcer pour le faire, j'ai pas envie, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Et puis le Seigneur il en a eu marre. Après autant d'années, on est en 2019, après 18 ans de mariage, cette année-ci, le Seigneur, il a dit, j'en ai marre de cette histoire. Je vais pousser, 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 pousser pour que ces mensonges du diable sortent. Et puis un jour, un matin, elle se réveille et elle me dit, j'ai peur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai peur. Je la regarde, je dis, ah, moi je sais ce que tu as. La puissance de mensonge qui a été sur ta vie est en train de se casser et le diable est en train de lâcher prise. Elle dit, mais j'ai peur, j'ai l'impression que j'ai attrapé quelque chose, que je vais être malade, que je vais mourir, je ne sais pas quoi. Je dis, non, c'est des mensonges du diable. Allez, viens, on s'assoit et on prie. Alors, je me mets à côté de ma femme, on se met à prier. Et je dis, esprit de peur, tu la lâches. Elle se met à tousser, 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 libérée, délivrée, comme dans la chanson. Elle a gâché la vie des chrétiens. Hein. Quand Walt Disney gâche la vie des chrétiens. Et elle était complètement libérée. Et en fait, j'ai pas peur. En fait, ce n'est pas moi qui avais peur. En fait, je peux y arriver. En fait, et alors, elle commence à regarder des personnes dans le monde chrétien qu'elle admire. Et elle dit, je crois que je sais faire ce qu'elle fait. Je crois que je peux faire ce que celui-là y fait. Mais ça fait 20 ans que je te le dis. Oui, mais je n'arrivais pas à le croire. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une puissance de mensonge et de peur qui l'asservissait et qui l'empêchait de croire en ce que Dieu voulait faire avec elle. Petite question. Que feriez-vous si vous n'aviez plus peur de rien ? Imagine maintenant qu'il n'y a plus de peur, ni des hommes, ni des démons, ni du monde, ni de la vie, ni de la mort, ni de aucune réalité. On bannit intégralement la peur, je n'ai plus peur de rien. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais plus peur de rien ? Eh bien ça, c'est ce que tu es appelé à faire, parce que tu es censé ne plus avoir peur de rien. Et Dieu veut te délivrer de l'esprit de peur qui t'a maintenu si longtemps. Dans l'église, vous savez, il y a parfois un esprit de peur qui se tient parmi nous. Qu'est-ce qui va penser mon voisin si je fais le fou ? Comme Louana. Qu'est-ce qu'il va penser ma femme si je me lève et que je me mets à danser qu'est-ce que je vais penser de moi-même hein? Quelqu'un de libéré s'en fiche de ce qu'on pense de lui. Pourvu que je plaise à Dieu. Le roi David, il a dansé devant l'Éternel de toute sa force. Même sa femme l'a méprisé. S'il vous plaît, ne méprisez personne, parce que souvenez-vous de la suite. Hein? Cette femme-là, Michal, elle est restée stérile jusqu'à sa mort parce qu'elle s'était moquée de David qui dansait. Et David, il a dit, je veux bien paraître encore plus fou que ça.
et m'abaisser à mes propres yeux. Mais sache que les jeunes filles qui m'ont vu danser, à leurs yeux, je serai honoré. Parce que David, il n'en avait que faire du « quand dira-t-on » parce qu'il voulait plaire à son Dieu, il voulait servir Dieu, il voulait laisser couler de son ventre les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Je connais une danseuse chrétienne. C'est vraiment étonnant ce qu'elle est capable de faire. Quand, vous savez, quand on a des réunions un peu bloquées, là, vous avez déjà vécu des réunions comme ça où le ciel semble être en bronze et qu'il n'y a aucun chant qui perce et que tout va mal, on chante dans le vide, là, il n'y a rien qui se passe. Eh bien, quand il y a des réunions comme ça, cette jeune fille-là, elle se met à danser dans l'église. C'est une danseuse professionnelle, elle fait des superbes danses. Le ciel s'ouvre et tout est transpercé et la louange décolle. Parce qu'elle n'a plus peur de personne. Moi franchement, vous ne me verriez pas commencer à faire des pas de danse au milieu de vous. Hein. Je veux bien danser si vous dansez avec moi. Si vous m'apprenez une chorégraphie, je vais le faire avec vous. Je vais faire la chorégraphie avec vous s'il faut. Mais vous ne me verriez pas faire des acrobaties et danser. D'abord, je suis nul, hein, vraiment. Mais ensuite, ce n'est pas mon genre. Mais il y a des personnes, vous êtes appelés à sortir du lot, à oser être originaux, à oser casser la glace. C'est comme dans les mariages. Il y en a toujours un qui descend sur la piste de danse en premier. Et tous les autres, on est là sur les bords et on se regarde et on est en train de se dandiner doucement. La musique, elle est en train de nous gagner. Et il y a le plus courageux qui descend. Allez, moi j'en ai marre, j'y vais. Hein ? On a besoin dans cette église de personnes qui disent, moi j'en ai marre, j'y vais. Pour la danse, mais pour n'importe quoi, pour l'évangélisation. Dans l'évangélisation, on est en train de s'attendre les uns les autres. On attend qu'il y ait un courageux qui se lève. Un jour, Pierre, il a dit, allez, moi je vais au temple évangéliser. Et Jean a dit, je viens avec toi. On a besoin de Pierre pour que les gens suivent. Sans jeu de mots. Et en allant là-bas, ils ont guéri un paralytique devant la porte. Il faut que vous discerniez la sphère de votre vie où Dieu vous a donné une autorité de pionnier. Chacun de nous, on est appelé à être un pionnier dans un domaine. Alors, je ne sais pas l'être dans tous les domaines, mais je sais l'être peut-être dans l'un ou l'autre. Et alors, casser la glace, oser. Regardez ce matin ce qu'on a vu quand Louana a demandé les personnes de venir témoigner. Qu'est-ce qui empêchait les uns et les autres de venir témoigner ? La peur. La peur de quoi ? La peur du regard des gens. Comment ? Quoi ? Les autres, oui. Je crois que tu avais dit Jésus. La peur des autres. La peur du regard des gens. On a peur du ridicule, on a peur de je ne sais pas quoi. Avez-vous remarqué que quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, la peur s'en va ? Et on ose. Quand la deuxième petite Pentecôte est arrivée, vous savez, les disciples avaient été persécutés, ils se réunissent à nouveau en prière. La Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés s'est mis à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole avec assurance, avec témérité, avec courage. Parce que quand le Saint-Esprit est là, le courage vient, qui brise la peur. Parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit d'amour et l'amour bannit la crainte. Et dès qu'on est plein de l'esprit, on n'a plus peur de rien. Qu'est-ce que tu serais, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais plus peur de rien ? Où tu en serais si toutes tes peurs volaient en éclats ? Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. C'est là qu'on doit être. L'ennemi, il joue très bien aux échecs et il est en train de contrecarrer beaucoup de vie dans cette église, beaucoup de ministères, beaucoup d'appels, beaucoup de personnes. Il est en train de vous contrecarrer avec un petit rien, certains d'entre vous. Un tout petit rien, un fil de coton qu'on pourrait casser. Il est en train de vous contrecarrer et d'essayer de vous empêcher d'entrer dans votre ministère. Et Dieu, il a toute la puissance pour vous libérer. Peut-être que Dieu vous a déjà libéré, que vous êtes comme cet éléphant qu'on a apprivoisé avec une chaîne attachée à un piquet. Vous connaissez l'histoire en Inde. Quand on dresse un éléphant, c'est assez cruel, un petit éléphant, on lui met une chaîne à sa patte, on l'attache à un pieu dans le sol. Et au début, l'éléphant, il veut partir, alors il essaye. Il se fait mal, alors il revient. Et puis, il oublie tout de suite, alors il court et il revient. Et au bout de quelques années, quelques mois, ça dépend, l'éléphant ne fait plus ça, parce que chaque fois, il se fait mal, alors il arrête. Et quand l'éléphant n'essaye plus, l'éleveur sait que c'est fini. Alors il retire la chaîne du piquet, il enlève la plupart des maillons de la chaîne et il laisse un petit bout de chaîne qui est contre la patte de l'éléphant. Jamais plus l'éléphant n'essaiera de s'en aller. parce qu'il sent la chaîne, il sait qu'il ne peut pas s'en aller. Il a été conditionné. Beaucoup d'entre nous, nous sommes conditionnés. Vous savez qu'un conditionnement, c'est mental. Un conditionnement, c'est mental. Si chaque fois que je te donne un chocolat, je t'envoie une baffe, la prochaine fois que quelqu'un te montre un chocolat, tu vas faire... Non ? On est conditionné comme ça. Je ne sais pas pour vous, moi, si une musique joue que j'entendais à une mauvaise période de ma vie, toute la mauvaise période de ma vie me revient dans le cœur. Et je dis, oh, pourquoi cette musique me rend triste ? Ah oui, c'était la musique que j'écoutais à ce moment-là. Ça vous arrive jamais, ça ? Oui, hein ? On est des êtres comme ça, très complexes. Et on est conditionnés. Et Dieu, ben, il aimerait bien nous reprogrammer. Il aimerait bien changer notre manière de réfléchir. Il aimerait bien repasser sur les différentes choses de notre vie pour que nous soyons libérés. Et il y en a plusieurs ce matin, le Seigneur te dit, tu sens une chaîne à ta patte, mais ça fait longtemps qu'elle est cassée. Ça fait longtemps qu'elle est cassée et que tu es libre. Il y a quelqu'un ici, tu es dans l'esclavage de l'addiction. Et Dieu te dit, ça fait longtemps que tu es libre, c'est dans ta tête que tu ne l'es pas. Et tu le deviendras quand tu le croiras. Tu te sens esclave et tu te dis, jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu vas me laisser dans ce bazar ? Tu es dans l'addiction. Mais Jésus te dit, je t'ai déjà libéré. Ta chaîne, elle est déjà coupée. Tu es déjà libre. Et ce que tu sens sur ta patte, eh bien, c'est le vestige de quelque chose qui te retenait avant, mais qui ne te retient plus. Lève-toi et marche. Sors de ta prison, lève-toi et marche. Ta prison, elle est seulement dans ta tête. Ta prison, elle est seulement dans tes souvenirs. Ta prison, elle est seulement dans tes sentiments. Moi, je t'ai libéré, dit le Seigneur. Alléluia. Dieu, il veut vraiment faire quelque chose d'exceptionnel au milieu de nous. Il veut nous délivrer de toute pensée qui nous asservit. Il veut transformer nos vies et nous permettre d'épanouir les gens qui sont autour de nous à travers ce que nous, on vit intérieurement. Est-ce que vous savez que l'atmosphère que vous cultivez à l'intérieur de vous va immanquablement se reproduire à l'extérieur de vous ? Ce que vous pensez à l'intérieur va immanquablement affecter votre environnement. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à penser comme Dieu. C'est pour ça qu'il faut que vous acceptiez que Dieu, il transforme votre manière de penser et qu'il vous délivre de toutes ces méthodes du diable par lesquelles il vous a retenu. Voilà, j'en ai dit assez pour ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il y a une grande rivière de la puissance du Saint-Esprit qui va couler dans cet endroit. Et elle ne va pas couler abstraitement dans ce bâtiment, elle va couler depuis le ventre, depuis le cœur des uns et des autres qui sont remplis de Dieu. Il y en a quelques-uns ici, vous vous dites, j'ai déjà vécu ça, je connais ces choses-là. Oui, mais si tu es honnête, tu diras, tu reconnaîtras que ton cœur n'est plus en feu comme il l'a été autrefois. Ne sois pas comme ce vieux qui a tout vu, tout connu et qui aujourd'hui ne le vit plus. Il y en a plusieurs ici, vous avez connu des temps de réveil dans le passé, Dieu veut vous les rafraîchir et vous les apporter à nouveau. Votre cœur n'est pas ardent comme il était au premier jour. Il y en a d'autres ici, vous n'avez jamais vécu un temps de réveil. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit, vous n'avez jamais été dans la liberté. C'est le temps d'y rentrer, Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel au milieu de nous. Pour les vieux, pour les jeunes, pour les nouveaux, pour les anciens, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les vieillards. Il va faire quelque chose de formidable au milieu de vous. Et il vous demande juste de faire attention à garder votre cœur. Ne le laissez atteindre par rien, par personne. Quand vous êtes en train de faire une activité, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous montre que ce n'est pas bon, arrêtez tout de suite avant d'avoir été trop loin. Si on est en train de parler d'une conversation, et que je sens de mon cœur que cette conversation elle ne plaît pas à Dieu. On arrête la conversation, on passe à autre chose. Même avant d'avoir vu en quoi elle était mauvaise. Quand on allume la télévision et qu'on sent que ce programme n'est pas de Dieu, et que mon épouse et moi, on sent que ce n'est pas bon. On ne sait même pas encore ce qui n'est pas bon, on le coupe avant de le voir, parce que je ne veux pas le voir. Il y a un truc qui me perturbe dans mon cœur. Voyez, quand je rencontre quelqu'un et que je me dis « Ah, ce mec-là, il est sympa », et je sens dans mon cœur qu'il y a un truc, je ne parle pas de toi, je parle de n'importe qui, hein, mais tu es juste un figurant, là. Ok. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Le Seigneur, il me dit, fais attention. Mais Seigneur, il est sympa. Il est sympa. Mais le Seigneur nous avertit. Quand on écoute notre cœur, on le sait. Je visite des maisons. Non, c'est pas là. Non, c'est pas. Ah, là, je suis chez moi. On sent dans notre cœur que c'est l'endroit. Vous voyez ? C'est comme quand on va se marier, on le sait dans notre cœur que c'est la bonne personne. Enfin, j'espère. Sinon, qu'est-ce que vous faites ? Quand on a perdu notre église, parce que parfois il y a des chrétiens à notre époque qui ont perdu leur église. L'église a fermé, le pasteur a déconné, ou bien il s'est passé quelque chose qui vous a fait fuir. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On visite des églises, et puis il y a un endroit où on dit « Ah, ça c'est chez moi, je sens qu'ici c'est ma maison ». Vous voyez ? Notre cœur parle de la part de Dieu. Et il nous montre que nous sommes au bon endroit, que nous sommes en train de faire ce qu'il faut. Bien souvent, on attend que Dieu nous parle audiblement, alors qu'il nous parle simplement dans le secret de notre cœur, par la paix de sa présence qui te fait te sentir chez toi. J'ai une décision à prendre. Est-ce que je dois accepter ce travail ? Là, je n'ai pas la paix. Je ne vais pas l'accepter. Là, j'ai la paix. Je vais l'accepter. Vous voyez ? Mon cœur parle de la part de Dieu. Il y a des fois, mon cœur me dit, il faut que tu loues le Seigneur. Je n'ai pas du tout envie. Avez-vous lu dans le psaume ? Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Vous voyez quand David dit ça ? David, il était là dans sa vie de tous les jours et tout à coup, son cœur lui a dit de la part de Dieu, cherche ma face. Bon. Il y a des fois, je suis occupé et le Seigneur, il me dit, arrête, mets-toi à part et cherche ma face. Mais je vais finir ça d'abord, Seigneur. J'ai souvent fait ça. J'ai voulu finir ce que je faisais. Et puis je suis allé obéir à Dieu. Et c'était fini, il n'y avait rien. Quand Dieu t'appelle, tu lâches tout et tu le suis. Comprenez ce que les disciples ils ont fait quand Jésus a dit « Viens et suis-moi ». Matthieu a laissé son argent sur la table des collecteurs d'impôts. Je me demande qui en a profité ce jour-là. Et il a suivi Jésus. Il n'a même pas dit « Occupez-vous de la caisse pendant que je suis parti ». Il est parti, il a suivi Jésus. Les quatre frères là, qui étaient deux par deux, deux familles différentes, qui étaient pêcheurs sur le lac de Galilée, Jésus a dit « Viens et suis-moi ». Ils ont abandonné leur père en train de raccommoder les filets pour suivre Jésus. Et le papa, il a dit « Ah ben ça y est, c'est toujours moi qui dois faire tout seul ». Et ils sont partis, ils ont suivi Jésus, ils ne sont plus jamais revenus, sauf après quelques années. Quand Jésus t'appelle, il faut y aller tout de suite. Et comment est-ce qu'il t'appelle ? Dans ton cœur, il te parle, il te dit, voilà, c'est le temps, lève-toi, fais ça. Ne désobéis pas à ton cœur, désobéis à ta tête, tes raisonnements. Mais là au fond, là où le Saint-Esprit te parle, dans ton intelligence spirituelle, ne désobéis pas. Il y a des fois, mon cœur me dit, parle à cette personne, mais ma tête, elle me dit, non, elle va pas t'accepter, elle va mal te recevoir. Mon cœur, il dit, je dois parler, mais ma tête, elle me dit, non, elle a un drôle de regard. Elle a l'air méchante, mais mon cœur, il y va. Et il y a des fois, ma tête, elle me dit, oh, cette personne, elle a l'air charmante et gentille. Et mon cœur dit, n'y va pas. Je dis, n'écoute pas. Et j'y vais, et puis je me fais mordre. Le cœur, il voit plus clair que les raisonnements charnels humains. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence spirituelle. Ne savez-vous pas que vous avez la pensée de Christ ? La Bible, elle dit, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Christ pense dans nos cœurs. En ce moment, il pense. Et il va dire, fais ci, fais ça, va là, va là. On doit apprendre à veiller sur cette expérience que nous avons. Avoir une vie de prière, c'est avoir un cœur plein d'esprit, un cœur rempli de la gloire de Dieu. C'est quoi prier ? Prier, c'est lever son cœur vers Dieu, tourner son cœur vers Dieu, regarder sa face et laisser le feu de son esprit consumer nos vies et diriger nos paroles. C'est ça, prier. Tout se passe dans le cœur. Je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit ça. C'est pas dans la tête, mais c'est dans le cœur que tout commence. Ma mère, elle avait ça dans le salon de notre maison. C'est là, c'est dans l'intérieur, le plus profond, l'intelligence spirituelle. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis ce matin, parce que c'est vraiment important pour cette saison. L'ennemi cherche à dévorer votre cœur et à le perturber. Dressez des remparts autour de lui. Protégez votre cœur. Empêchez l'adversaire de l'atteindre. Il y en a, Dieu vous bénit richement, et puis avec vos raisonnements humains, vous détruisez la bénédiction. C'est vrai. Parce que vous recalculez, réfléchissez, doutez, dans tous les sens. Alors qu'il faut simplement laisser le Seigneur dominer votre vie. Il y a des gens, parfois je les rencontre, ils se rendent la vie très compliquée. Ils se détruisent, ils se sabotent eux-mêmes avec des raisonnements à n'en plus finir. Arrête ! Dis au petit singe là-dedans de se calmer. On n'est pas obligé de subir ses pensées. On n'est pas obligé. L'intelligence est un très bon outil que Dieu nous a donné. Mais on n'est pas obligé de la subir. Je ne sais pas que quand vous vous couchez le soir, vous êtes comme moi parfois. Ça tourne. Je dis, fous-moi la paix, je veux dormir. Et je suis en train de penser à ça. Et il ne veut pas me laisser. Il y a des fois, c'est tellement actif dans ma tête que au milieu de la nuit, je me réveille et je suis encore en train de cogiter. On a besoin de pouvoir dire, écoute, tu te tais maintenant. Ce n'est pas le temps de réfléchir. Maintenant, c'est le temps de souffler et juste d'être dans la présence de Dieu. Les chrétiens, ils ont peur de ne plus penser parce qu'on leur a dit que si tu ne penses à rien, tu fais le vide et les démons vont rentrer. J'ai remarqué que les démons, ils entrent beaucoup plus vite quand on a de mauvaises pensées. Oui. Mais quand on dit, okay, ma pensée, c'est bien, tu m'as servi toute la journée, maintenant je vais reposer ma pensée et je vais simplement demeurer dans mon cœur et tourner mon cœur vers le Seigneur, tourner mon intelligence spirituelle vers le Seigneur. Et ma tête, elle peut se calmer et arrêter de cogiter, arrêter de parler, arrêter de faire le petit perroquet. La paix. Il y en a qui se disent, arrête de prêcher, ça va nous soulager aussi. C'est vrai, il y a des fois, on parle beaucoup. Il y a des fois, il faut juste... Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Et simplement amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Seigneur, on est là devant toi ce matin, on est à l'aube de grandes aventures. Tu fais des grandes choses au milieu de nous, Seigneur. Et on veut te remercier parce que c'est toi qui es au règne de l'Église et tu vas vraiment nous éblouir et nous étonner. Seigneur, ce matin, on veut te donner nos pensées. Tout ce qui en nous perturbe notre harmonie, notre communion avec toi, on te soumet toute pensée et on les amène captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Seigneur, moi je veux bien admettre que j'ai tort sur beaucoup de points. Je veux penser comme toi. Et je sais que ce sont mes pensées souvent qui me nuisent et me détruisent. Alors Seigneur, mets ta pensée en nous encore. Transforme notre manière de réfléchir pour que nous réfléchissions comme toi. Et que nous voyions le monde comme toi, tu le vois. Et que nous disions ce que tu dis. Que nous regardions là où tu regardes. Que nous écoutions ce que tu entends. Que nous fassions ce que toi tu fais. Seigneur, ce matin, on veut consacrer nos membres comme des instruments de ta justice. Ce matin, on veut consacrer nos yeux, Seigneur, pour voir comme toi tu vois, pour que tu puisses regarder à travers nos yeux et faire coucou aux gens à travers les fenêtres de nos regards, parce que tu es à l'intérieur de nous, Seigneur. On veut te consacrer nos oreilles pour écouter ta parole et écouter ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation. On veut écouter ta parole, Seigneur. On veut écouter ta louange. On veut écouter ce qui édifie, ce qui construit. On te consacre nos oreilles. On veut écouter les blessures des hommes pour les soulager. On veut des oreilles qui écoutent et qui compatissent. Seigneur, nos bouches, on te les consacre aussi. On te consacre notre langue qui a dit trop de bêtises. Seigneur, je veux parler comme toi, des autres, mais aussi de moi-même. Car je suis ce que tu dis que je suis. Et eux, ils sont ce que tu dis qu'ils sont. Seigneur, je me défais de mes opinions par rapport aux hommes. Ce que j'ai pensé d'eux, ce que j'ai vu d'eux, ce que j'ai entendu d'eux. Je ne vais plus les juger comme je les ai jugés, parce que si on me jugeait moi d'après mon passé, je serais foutu. Et toi, tu m'as lavé de mon passé comme tu peux les laver du leur. Alors Seigneur, moi je vais parler des autres comme toi tu en parles. Et je vais dire du bien et je vais bénir. Je vais arrêter de ressasser les vieilles choses. L'eau a passé sous le pont et le sang de Jésus a effacé les transgressions. Je vais parler, Seigneur, comme toi tu parles. Je te donne mes pieds et mes mains pour aller là où toi tu vas et faire ce que toi tu fais. Seigneur, je vais arrêter de faire ce que je désire et faire ce que toi tu désires. Conduis-moi, apprends-moi. Je te demande, Seigneur, maintenant que cette présence qui est dans cette église, s'installe dans chaque cœur ce matin. Une paix surnaturelle, immense, grande comme l'océan. La paix du Christ. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Seigneur, nous te recevons, nous te remercions pour ta présence. Recevez-le maintenant, il est là. Il est là. Si vous avez besoin de vous tenir debout, si vous avez besoin de lever les mains, n'hésitez pas. Osez faire ce que vous sentez. Le Seigneur, il est ici et il est en train de répandre sur toute l'Église sa grâce.